le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand en des frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent. Quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit. Bonjour. Nous commençons ce nouveau billet avec une actualité récente. Le gouvernement suisse vient d'ajourner la question de l'initiative pour des multinationales responsables. Cette décision inattendue soulève de nombreuses questions au sujet de la souveraineté populaire et a sans doute fait réagir les milieux militants pour cette initiative. Pour en parler, nous accueillons Chantal Payer de l'Organisation de développement des églises protestantes suisses, PAIN pour le prochain, pour un bref entretien. Chantal, bonjour et merci d'avoir répondu à notre demande.
Bonjour.
Tout d'abord, concernant cet ajournement, quelles sont les réactions des initiants? Indignation, scandale, révolte?
Je dirais qu'il y a surtout de la déception par rapport aux conseillers d'État donc, qui ont pris la décision de suivre le PLR Roudinouzer, qui voulait repousser la discussion sur le contre-projet à l'initiative pour des multinationales responsables. Parce qu'au fond, cette motion qu'il a apportée était surprenante pour tout le monde et assez inhabituelle. Et puis, c'est très clairement une stratégie pour couler le contre-projet qui était sur la table. Parce qu'il y avait, donc pour rappel, un contre-projet qui avait été élaboré par le National, qui a été soutenu par deux fois une grande majorité par le Conseil national, y compris dans l'ancien Conseil national, qui était quand même un Conseil national de droite. Il y a des PLR, des PDC qui ont soutenu, et même des UDC qui ont soutenu ce contre-projet. Les États avaient refusé d'entrer en matière en mars, mais suite au deuxième soutien du National, c'est revenu aux États. Et puis la Commission des affaires juridiques des États s'est repenchée sur ce contre-projet. Ils ont apporté une modification qui était d'introduire une sorte de procédure de conciliation avant qu'il y ait le dépôt d'une procédure civile. Donc pour rappel, hein, le contre-projet demande que les entreprises suisses soient obligées par la loi de respecter les droits humains et de les faire respecter à leurs filiales et fournisseurs. Mmh. Et si une entreprise en contrôle une autre, en cas de violation grave, les victimes peuvent ouvrir une procédure civile en Suisse. Le contre-projet garde certains de ces éléments, va un peu moins loin sur un certain nombre de détails, et notamment, justement, ils ont introduit cette procédure de conciliation. Cette proposition a été adoptée par la Commission des affaires juridiques des États. Nous, les initiants, on a dit qu'on était prêts à faire encore cette concession et à retirer l'initiative si ce contre-projet était accepté par les conseillers aux États. Et puis, ce contre-projet était soutenu par énormément d'acteurs économiques, Migros, Coop, Denner, par l'association de textile suisse, par le groupement des entreprises multinationales, le centre patronal, la fédération des entreprises romandes. Donc, vous avez vraiment des acteurs majeurs de l'économie suisse qui soutenaient cette proposition. Vous avez une majorité des conseillers nationaux, vous avez les initiants qui ont dit que ça permettrait le retrait de l'initiative. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Économie Suisse, qui depuis le début des discussions ne veut absolument pas de compromis et refuse toute loi et toute discussion constructive dans ce domaine, a réussi, via Roudinouzer, à faire repousser la discussion pour que la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, qui a avancé en été une proposition de reporting non financier, qui est une proposition très très faible, puisse enfin amener son projet aussi dans la commission et qu'il soit discuté en même temps que l'autre contre-projet. Donc c'est une stratégie pour couler en fait le contre-projet qui a un petit peu de viande et un peu de contenu, et pour essayer d'obtenir une majorité aux États pour la proposition de la conseillère fédérale. Cette deuxième proposition de reporting non financier, elle n'a pas de sens pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'oblige pas les entreprises à adopter une politique de droits humains. Une entreprise qui n'a pas de politique de droits humains peut simplement dire « nous n'avons pas de politique de droits humains » et expliquer pourquoi. Et elle a fait son reporting. Et puis ensuite, les entreprises qui ont déjà une politique de droits humains doivent expliquer qu'est-ce qu'ils font. Mais si ces entreprises commettent des violations des droits humains, il n'y a aucune possibilité pour les victimes d'obtenir des réparations en Suisse. Donc c'est vraiment un texte qui est une feuille de papier bureaucratique, ce d'autant plus qu'aujourd'hui la plupart des grandes entreprises, que ce soit Glencore, que ce soit Holcim Lafarge, que ce soit Syngenta, qui sont régulièrement dénoncées pour des violations des droits humains à l'étranger, la plupart de ces entreprises font déjà un reporting. Y compris sur des questions
donc
de droits humains.
Donc il faut cavaliser finalement une chose, quoi.
Donc finalement, cette proposition du Conseil fédéral ne revient effectivement à valiser ce que ces firmes font déjà et qui ne change rien en termes réellement de respect des droits humains par ces entreprises et leurs filiales et fournisseurs. Ce qui est très décevant pour, je pense, beaucoup d'acteurs qui ont observé la politique suisse ces dernières semaines, c'est de voir quand même que ces conseillers d'État n'étaient plus en phase avec les attentes de la société. La société est préoccupée par les enjeux écologiques, par les enjeux de droits humains, on l'a vu. Et puis, en fait, cette chambre était complètement déconnectée de la réalité sociale aujourd'hui. Et pour ça, c'est vrai que les nouvelles élections, alors il y a encore certains postes qui doivent être pourvus, mais ont amené un vent frais qui est bienvenu au Parlement, parce qu'il s'agit vraiment un peu de dépoussiérer cette politique suisse.
Une autre question qu'on se pose, comment les diverses institutions et associations imaginent de réagir à cette inconduite gouvernementale ? Est-ce qu'elles vont trouver une façon unie de réagir, ou est-ce que chacun a un peu sa position, sa posture ?
Les associations qui soutiennent l'initiative, donc aujourd'hui il y en a plus de 120, on est très unis, on est coordonnés aussi par un secrétariat de l'initiative. On a réagi très fortement, c'est-à-dire que le débat aux États a eu lieu un jeudi 26 septembre, et le 24 septembre, le soir, une pétition a été lancée pour demander aux conseillers aux États de ne pas accepter le report de la discussion. Et en moins de 48 heures, il y a eu plus de 50 000 signatures, ce qui est quand même exceptionnel comme capacité de mobilisation. Maintenant que les États ont repoussé la discussion malgré tout, il y a deux axes de travail pour nous. Le premier, c'est de préparer la campagne de votation, parce qu'on va de plus en plus dans la direction d'une campagne de votation. Donc il y a aujourd'hui plus de 250 comités locaux de soutien à l'initiative, il y a un comité d'entrepreneurs qui soutient l'initiative, il y a un comité de personnalités politiques bourgeoises qui soutient l'initiative, qui a été lancé aussi fin septembre. Vous avez là-dedans aussi des gens comme M. de Beaumont de Fribourg, des acteurs du PDC, certains PLR Genevois, Neuchâtelois, vous avez des gens du PDB. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer que des personnalités politiques du centre importantes qui ont joué un rôle dans la construction de l'avenir de ce pays soutiennent l'initiative et demandent à ce que l'initiative soit acceptée par le peuple. Donc on prépare intensément la campagne de votation. D'autre part, on a aussi signalé aux différents acteurs parlementaires qu'on restait ouvert à la discussion pour autant qu'un compromis qui fasse sens soit discuté. Pour nous, c'est très clair que la proposition de Mme Keller-Souter ne répond absolument pas aux demandes des initiants et signifie qu'on va partir en campagne de votation. Si maintenant cette proposition est définitivement écartée de la table et on recommence à discuter le contre-projet qui était là en septembre, on est ouvert à la discussion.
Et ça pourrait se produire, qu'ils reviennent en arrière et
Ils ont repoussé la discussion, donc en fait, ils n'ont pas refusé cette proposition, ce qui était certainement lié aussi aux élections, c'est-à-dire que tous ces messieurs, quand même, de droite, ne voulaient pas dire publiquement, juste avant les élections, qu'au fond, ils étaient le porte-voix d'économie suisse, et puis qu'ils étaient à défendre les intérêts de quelques grandes multinationales, alors que plein d'acteurs de l'économie, au fond, soutenaient ce projet, ce contrat. Projet. Donc c'était une position assez inconfortable pour eux et c'était aussi une façon d'éviter la discussion avant les élections.
D'accord. Une autre question aussi liée un peu plutôt à l'international. à quelques semaines des décisions conjointes de l'ONU et de l'OCDE de tenter d'accélérer la question de la réglementation de ces mastodontes transnationales, la décision du gouvernement helvétique d'ajourner ne fait-elle pas un peu tâche quand même ?
C'est clair que ça fait tâche dans la mesure où vous avez clairement une tendance qui va en direction d'un devoir de diligence obligatoire et que la décision ou le choix pour la Suisse n'est pas de dire est-ce qu'on veut ça ou pas, mais c'est quand. Et au fond, on se retrouve prisonnier justement de la pression de quelques grands lobbies qui ont encore une influence beaucoup trop grande au Parlement et qui refusent simplement de voir l'évolution de la société et l'évolution des pays autour de nous. Il y a ces discussions pour un traité international aux Nations Unies. Vous avez des lois qui ont été adoptées en Hollande, en France, en Grande-Bretagne, pas tout à fait les mêmes que la proposition suisse, mais qui montrent que l'avenir est vers cette réglementation d'un devoir de diligence. Et que donc il s'agit aussi de la Suisse, pour la Suisse, de voir si nos autorités pensent qu'on peut avoir une économie qui est responsable et solide économiquement. Nous, on en est convaincus, et c'est quand même aussi un manque de confiance dans l'économie suisse que de penser que les entreprises suisses doivent pouvoir violer les droits humains en toute impunité pour pouvoir tourner. C'est un peu un non-sens.
Et puis, mais vous ne pensez pas que... Est-ce que ces gens qui appuient, on va dire, le veto, quoi, est-ce qu'ils peuvent être conscients éventuellement du discrédit ou de la mauvaise publicité que ça peut générer sur la Suisse, voire sur les entreprises suisses? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils n'en sont pas conscients? Est-ce qu'on peut se dire quelque chose par rapport à ça?
Alors, les lobbies comme Économie Suisse, évidemment, ils ne vont pas dire publiquement qu'ils sont contre les droits humains. Mmh. Eux, ils disent les droits humains sont importants, nous reconnaissons les principes internationaux, mais les outils proposés par le Parlement et par les initiants sont les mauvais outils. Nous, donc leur discours, c'est de dire nous engageons déjà de manière volontaire et regardez la politique des firmes actuellement. Donc évidemment qu'ils sont quand même plus subtils et puis dans leur discours, au fond, ils disent qu'ils défendent et ils s'engagent pour les droits humains, même mieux que les ONG qui n'ont pas compris la réalité du monde économique. Mais je pense que leur discours, il est plus...
Discipline interne, quoi, en fait, finalement. C'est au même truc. Ils parlent du principe que l'entreprise va elle-même se discipliner, en fait.
Exactement. Ils dépolitisent la discussion en disant que ce n'est pas un choix citoyen de définir le cadre dans lequel les entreprises font du profit, mais c'est finalement à l'entreprise de s'autodiscipliner.
Dernière petite question. Au terme des élections qui viennent d'avoir lieu, à votre avis, à quoi on peut s'attendre comme changement d'orientation? Enfin, et puis, est-ce qu'il y a eu des promesses? Et puis, est-ce qu'elles seront tenues? Enfin, est-ce que vous voyez ce changement de composition politique plutôt avec espoir ou plutôt avec dépit, par exemple?
Alors, je dirais que les élections sont de toute façon une bonne nouvelle, dans la mesure où, évidemment, les partis verts ont gagné beaucoup de sièges, que le Parlement s'est féminisé et s'est rajeuni, ce qui en lui-même est déjà, de mon point de vue, une excellente nouvelle pour le dynamisme et puis le côté sain de la politique suisse, parce que c'est vrai que le Parlement ne représentait absolument plus la population suisse et ses souhaits. Je pense qu'aux États, ça va être plus complexe qu'au national. Il faut attendre les résultats du deuxième tour. Aujourd'hui, au national, si vous regardez Smart Vote, ils avaient posé une question sur l'initiative multinationale responsable. Vous avez plus de 100 conseillers nationaux qui ont dit qu'ils soutenaient l'initiative. Donc il y a vraiment beaucoup de voix en faveur de l'initiative et pas juste du contre-projet dans les conseillers nationaux et les nouveaux élus. Donc c'est tout à fait favorable. Aux États, la situation est plus compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup de sénateurs conservateurs qui se sont représentés. Malheureusement, il y a plusieurs sénateurs qui étaient réellement, y compris à droite, ouverts et constructifs, qui se sont retirés, notamment Raphaël Comte, Anne Seydoux dans le Jura. Et puis maintenant, il faudra quand même voir aussi qui va remplacer ces différents sénateurs, puis quels seront les résultats du deuxième tour. Aux États, les États risquent de rester quand même encore relativement conservateurs. Alors, on a aussi quelques bonnes surprises, hein, comme justement à Neuchâtel, avec Céline Vara qui a été élue au premier tour et qui est verte, qui est jeune, qui est femme, qui va amener aussi un peu de vent frais aux États. Mais pour avoir une majorité politique aux États pour des propositions comme l'initiative multinationale responsable, son contre-projet, ça va rester plus difficile qu'au national.
Oui, parce qu'il y a encore une chose que j'ai vu récemment, un peu par hasard, une émission de TV où il parlait de la nouvelle formation politique, il parlait de cette augmentation des Verts, mais il rendait aussi attentif au fait que les Verts ont augmenté, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une forme de coalition, un peu, c'est-à-dire qu'il y a les Verts libéraux, et puis je ne sais plus, les Verts, Verts, enfin je ne m'en rappelle plus. Mais enfin, il parle de cette quand même... De cette amélioration qui en même temps peut un peu consensualiser la position, on va dire, climatique, écologique. Et est-ce que vous pensez que cette coalition peut s'avérer effectivement être un danger ou est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce qu'on peut croire que cette coalition va renforcer la position ou est-ce qu'elle va diviser, par exemple,
tout à coup? Ça dépendra de tous des sujets. Je dirais que sur le contre-projet à l'initiative pour des multinationales responsables, les Verts soutiennent ce contre-projet et l'initiative. Les Verts libéraux, dans leur grande majorité, soutiennent le contre-projet. Pour l'initiative, c'est plus partagé. Mais je dirais que les Verts, avec l'alliance des Verts libéraux, du PDC, on peut quand même réellement travailler, parvenir à des compromis beaucoup mieux qu'avec une majorité du DC et de PLR sur ces sujets-là qui concernent les droits humains, les enjeux écologiques et puis surtout quand ça touche aux entreprises multinationales.
Donc si on résume, on va dire que pour vous, ce nouveau sang politique, vous considérez ça comme une bonne chose, quoi.
C'est tout à fait une bonne chose à voir si aux États ça suffira pour réellement renverser la vapeur. Là, on est encore dans l'incertitude. Il faut attendre le résultat du deuxième tour.
Chantal Payère, je vous remercie pour ces dernières informations et ces compléments d'informations. Et puis, peut-être à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Dans ce cinquième billet consacré à l'initiative pour des multinationales responsables, nous vous proposons de plonger dans l'ambiance de l'Assemblée générale du Conseil des droits de l'homme. Plus précisément, lors de sa 30e session, de juin à juillet 2018, pour écouter un exposé présenté par le Centre Europe Tiers Monde, organisation non gouvernementale dont nous avons diffusé une interview la semaine dernière. L'ONG présentait en effet au plénum du Conseil des droits de l'homme un rapport dont le titre est « Les violations des droits humains des travailleurs par Glencore dans le monde ». Dans une mise en scène fictive et fruit de notre imagination, le texte reprend fidèlement et en tout point le rapport présenté.
Mesdames, Messieurs, membres de l'Assemblée générale des Nations unies, le CETIM, le Centre Europe Tiers Monde, est alarmé par la croissance des violences des droits humains commises par des sociétés transnationales à travers le monde. La présente déclaration a pour but de mettre en lumière les violations commises par Glencore, ses filiales et sous-traitants dans plusieurs pays. Glencore PLC est l'une des plus grandes sociétés minières et de négoce de matières premières au monde. Basée en Suisse, elle est cotée en bourse. Les organisations de la société civile critiquent depuis longtemps cette compagnie transnationale pour son impact sur les communautés locales et sur l'environnement. Glencore est confrontée non seulement à une surveillance accrue par les régulateurs de plusieurs États sur ses relations commerciales et ses pratiques de gouvernance d'entreprise, mais aussi à une campagne mondiale menée par les syndicats pour l'inciter à respecter les normes sur le travail. Si après une brève description des violations récentes des droits humains des travailleurs par Glencore, rapportées aux syndicats Industriol par des travailleurs de cette entreprise et leurs syndicats. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre dans son article 7 le droit universel à la jouissance de conditions de travail justes et favorables qui garantit des conditions de travail sûres et saines. Glencore ne garantit pas des conditions de travail sûres et saines à ses travailleurs, et ce très régulièrement. Les syndicats du secteur minier à travers le monde ont même rapporté qu'un Glencore adoptait une attitude laxiste face à la santé et la sécurité. En Bolivie, les travailleurs de Glencore, qui sont payés en fonction de leur productivité, se plaignent du fait que les équipements de sécurité sont de mauvaise qualité. Les syndicats boliviens soutiennent que les travailleurs sous contrat pour la compagnie Sinchi, Vaera y Lapa ne sont pas correctement formés, conduisant à deux accidents fatals en 2017. L'entreprise en question exerce à présent une pression sur le personnel, menaçant de fermer les mines si des accidents se reproduisent, comme si les travailleurs étaient responsables du manque de sécurité au travail. En Zambie, une dynamique similaire a été rapportée par les travailleurs de Mopani Copper, une des filiales de Glencore. L'entreprise aurait prétendument menacé en 2017 de fermer les mines si se produisait un accident mortel. Les travailleurs de Mopani dénoncèrent que des rapports médicaux avaient été falsifiés pour forcer les employés malades à se présenter au travail. De plus, l'obligation de contrôler régulièrement l'état de santé des travailleurs pour dépister des cas de silicose n'est pas respectée alors même qu'ils sont quotidiennement exposés à des substances nocives. Enfin, les équipements défaillants utilisés par les sociétés contractantes mettent la vie des travailleurs en danger. À la suite d'une réduction significative du personnel, les opérations sont en sous-effectif et certains employés sont forcés de travailler en souterrain pendant 24 heures. Glencore a adopté une approche dite de « tolérance zéro » en matière de santé et de sécurité au travail, qui peut sembler bienveillante telle qu'exposée dans les rapports publics, mais qui a en fait pour effet de transférer la faute et la responsabilité de l'employeur aux victimes. La tolérance zéro consiste alors à les punir à la suite d'un accident de travail. Par le biais de cette menace, les signalements d'accidents se font plus rares, ce qui améliore artificiellement les statistiques en matière de sécurité. En Colombie, le syndicat Sintra Carbon allégua qu'en moins d'un mois, en août 2017, il y a eu 13 accidents de travail à Corejón, une mine de charbon à ciel ouvert, détenue en partie par Glencore, BHP Billiton et Anglo American. Sintra Carbon affirmait que la santé et la sécurité dans les mines de Calenturitas étaient inférieures aux normes. La productivité prend le pas sur la santé et la sécurité. Les équipements de sécurité ne sont pas entretenus convenablement et le comité mixte de santé et de sécurité ne fonctionne pas correctement. Enfin, les personnes dans l'incapacité de travailler se voient attribuer des tâches comme le ramassage des ordures ou sont isolées sans aucun travail à faire. En République démocratique du Congo, les plaintes des travailleurs contre les filiales d'extraction de cuivre et de cobalt de Glencore concernent notamment le manque d'eau potable sur certaines exploitations de Glencore, la nourriture de basse qualité et le manque d'espace de restauration, forçant les travailleurs à manger sur leur lieu de travail, parfois à proximité de produits chimiques. Au-delà de cela, très peu de soins de santé ou des soins de santé inadéquats sont fournis par Glencore aux travailleurs et à leurs familles. Ces travailleurs se plaignent aussi des salaires injustement bas, ce qui contraste particulièrement avec les profits réalisés par Glencore en RDC et du fait que Glencore refuse catégoriquement d'entrer en négociation au sujet de revendications de longue date. Le pourcentage de travailleurs temporaires sur l'ensemble du personnel de Glencore ne cesse d'augmenter ces dernières années. En 2017, environ 62 000 travailleurs, soit 43% du personnel, étaient des travailleurs temporaires, alors qu'ils étaient 38% l'année précédente. Ce phénomène provoque une précarisation inquiétante du personnel puisqu'il prive les travailleurs d'un niveau de vie adéquat, d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, d'opportunités égales, de la sécurité d'un contrat permanent, d'une pension de retraite et d'une assurance santé, ou encore, en pratique, du droit de former ou de rejoindre un syndicat. En Colombie, mesdames et messieurs, en 2016, Correjon a été condamné à payer une amende de 2 milliards de pesos, environ 650 000 dollars états-uniens, par le ministre colombien du Travail pour usage excessif de tierces parties sous-traitantes. Dans l'exploitation de Prodeco de Glencore en Colombie, Sintra Carbon allègue que la société transnationale aurait instrumentalisé les travailleurs temporaires afin de porter préjudice au syndicat. Les travailleurs sous contrat d'un an sont dissuadés de rejoindre un syndicat puisque le renouvellement de leur contrat serait ainsi mis en péril. Selon le syndicat des mineurs de Zambie, le MUZ, environ la moitié des travailleurs des exploitations de cuivre de Mopani, détenus majoritairement par Glencore, sont temporaires et gagnent en moyenne moins du tiers du salaire des travailleurs fixes. Ces derniers sont syndiqués alors que les travailleurs précaires ne le sont pas, ce qui limite encore davantage la possibilité pour ces derniers de s'exprimer sur leurs mauvaises conditions de travail et leur salaire inférieur aux normes. En Zambie, les syndicats affirment également que les travailleurs temporaires de Glencore sont employés pour des périodes plus longues que ce qui est permis par la loi. Plutôt que de négocier de bonne foi avec les syndicats en tant que représentants des travailleurs, Glencore est accusé de tenter de saboter les syndicats. En Australie, la société a empêché aux travailleurs l'accès à la mine d'Oki North pendant plus de 230 jours pour s'être opposé à un plan visant à remplacer les travailleurs fixes par des travailleurs temporaires. De plus, des témoignages ont rapporté que des travailleurs et leurs familles ont été suivis et filmés lors d'événements sociaux, mais aussi dans leur vie privée par des agents de sécurité employés par la société. Par la suite, l'institution arbitrale du travail de l'Australie, Fair Work Commission, a ordonné à l'entreprise de cesser de surveiller les travailleurs et de leur autoriser à porter des t-shirts à l'effigie de leur syndicat. Au Canada, les travailleurs de la raffinerie de zinc, C-Zinc, gérée par Glencore au Québec, ont fait grève pendant 9 mois en 2017 après que l'entreprise a tenté de réduire ses dépenses en renvoyant notamment à la baisse son régime de retraite. Pendant la grève, l'entreprise aurait illégalement embauché des briseurs de grève dans le but de miner les revendications en cause. En République démocratique du Congo, les travailleurs de Glencore soutiennent que les différences de traitement et de conditions de travail entre les exploitations de Mutanda et de KCC de Glencore constituent une tentative délibérée de l'entreprise de diviser et affaiblir les syndicats. En Colombie, la filiale Prodeco, détenue entièrement par Glencore, refuse de négocier en tant qu'employeur unique, ce qui peut entraîner des inégalités et une discrimination entre les travailleurs. En effet, la société continue de gérer séparément les mines Carbones La Jagua, Consorcio Minero et Calenturitas, malgré la demande des autorités colombiennes d'intégrer les trois exploitations en une seule entité commerciale. En pratique, les trois mines sont exploitées depuis le même étage du même bâtiment à Barranquilla et partagent la même direction. Cependant, les travailleurs des trois mines sont soumis à des conditions différentes et se voient refuser la possibilité de s'associer pour négocier avec un employeur commun. Sintra Carbon rapporte que Prodeco a violé de manière flagrante le droit à la liberté d'association dans la mine de Calenturitas en exerçant une discrimination contre les dirigeants et les membres du syndicat, en interférant avec le droit des travailleurs de choisir librement leur affiliation syndicale et en sapant le processus de négociation collective. La direction a discriminé les dirigeants syndicaux en modifiant leur poste de travail, en leur appliquant des mesures disciplinaires drastiques, y compris des licenciements ou des suspensions multiples pour la même infraction, ou parfois en les envoyant en congé payé pour les marginaliser. Elle a accordé un traitement préférentiel aux représentants des travailleurs non syndiqués, y compris lors de négociations et pour des opportunités de travail. La direction a aussi persuadé les membres du syndicat de démissionner du syndicat par des menaces et des mesures incitatives. Un autre moyen d'affaiblir le syndicat a été de sous-traiter 70% des emplois, y compris dans les fonctions principales de la mine. Au Pérou, la société minière d'Antapaccay, détenue par Glencore, a profité de la faiblesse du cadre réglementaire péruvien pour empêcher le personnel technique d'exercer son droit à la liberté d'association. Depuis 2013, l'entreprise a recours à des licenciements abusifs, à la contrainte et à l'ingérence dans les affaires syndicales. En 2010, l'entreprise a massivement reclassé 450 techniciens, superviseurs et employés administratifs comme employés de confiance, et ce malgré le fait que les fonctions exercées par ce personnel ne sont qu'opérationnelles et ne relèvent de ce fait pas directement de la direction. Ainsi, l'entreprise a profité d'une faille dans la législation régressive du Pérou en matière de droit du travail, laquelle permet de limiter le droit de s'organiser et négocier collectivement des cadres et des employés de confiance. Cette loi les rend aussi vulnérables au licenciement sur des motifs subjectifs. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a averti à plusieurs reprises le gouvernement qu'une définition trop étroite de l'expression « employé de confiance » pourrait restreindre injustement le droit des travailleurs. L'OIT a ainsi demandé au gouvernement de revoir sa législation afin d'assurer à tous les travailleurs la jouissance du droit de s'organiser et négocier collectivement. En 2013, le personnel administratif ainsi qu'un groupe de techniciens se sont réunis afin de former un syndicat en réponse aux traitements injustes subis, notamment en matière de rémunération et de promotion, et au sentiment de vulnérabilité qu'induisait la qualité de employés de confiance. Ce nouveau syndicat a été enregistré par les autorités du travail le 27 novembre. Deux jours plus tard, les 35 membres du syndicat ont été licenciés sans recevoir d'explication. Peu de temps après, la direction a proposé de reprendre les travailleurs licenciés à condition qu'ils acceptent de quitter le syndicat et qu'ils acceptent de signer une lettre rédigée par les avocats de l'entreprise. Cinq dirigeants syndicaux ont refusé ces conditions. Ils n'ont ainsi pas été réintégrés, bien qu'ils soient protégés par le fuero syndical, la protection contre le licenciement pour activité syndicale. Mesdames et messieurs, membres de l'Assemblée générale des Nations unies, voici notre conclusion. Le syndicat industriel a tenté d'engager avec Glencore un dialogue social mondial sur les mauvaises pratiques de l'entreprise en matière de santé et de sécurité, le mauvais traitement des travailleurs, les conflits de travail non résolus et les pratiques antisyndicales. Glencore a refusé de coopérer. Face à cela, les travailleurs et les syndicats, y compris industriel, s'efforcent de parvenir à des accords mondiaux sur des stratégies et principes communs sur le travail, nécessaire au respect et à l'application des normes internationales en matière de travail et de droits humains. Les violations systématiques des droits humains et des normes internationales du travail par Glencore dans le monde entier, en toute impunité et sans être tenues responsables, soulignent le besoin urgent d'un instrument international juridiquement contraignant permettant de réglementer les activités transnationales et leur impact sur les droits humains. Cet instrument serait également un outil essentiel pour garantir l'accès à la justice aux victimes et aux communautés affectées. Le CETIM exhorte les États d'accueil de Glencore et de ses filiales à honorer leur engagement en matière de droits humains et de normes internationales du travail, en prenant des mesures concrètes pour s'assurer que cette entreprise respecte en particulier les droits des travailleurs à la sécurité, à la santé, à un revenu décent et à la liberté de réunion et d'association pacifique. Mesdames et messieurs, membres de l'Assemblée des Nations Unies, le CETIM exhorte également les autorités suisses à se conformer à leur obligation de veiller à ce que les sociétés transnationales, basées sur leur territoire, ne violent pas les droits humains, en particulier lorsqu'elles exercent leur activité dans d'autres pays et, en cas de violation, accorder aux victimes l'accès à la justice. Nous appelons tout particulièrement le gouvernement de la Suisse à intervenir pour mettre fin aux violations des droits humains par Glencore et pour veiller à ce que les victimes obtienne justice. Je vous remercie. Conception, à la réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo, rédacteur responsable, Patrick Rion. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la semaine prochaine.